Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et merci d'être au rendez-vous nocturne de Radio Foot International après cette soirée de Ligue des Champions, puisque nous vivons ces deux soirs l'ouverture de la grande compétition européenne. Et donc une seconde soirée avec presque autant de buts à travers l'Europe qu'hier soir. 26 buts et quelques scores fleuves. 4 buts pour les Citizens, 3 pour les Molenguets, 3 pour les Spurs et 3 pour les Turcs de Beşiktaş. Demi-finaliste l'an dernier, eh bien les Monégasques en reconstruction ramènent seulement ou finalement un point de Leipzig après un match très intense. Les Reds, eux, ont été tenus en échec chez eux par les Espagnols du FC Séville. Tout sur cette deuxième soirée de Ligue des Champions, tout de suite ici dans Radio Foot. Et puis un saut de lama, pas de cabri, de lama dans les Andes du Pérou pour en savoir plus sur les JO 2024. Vous le savez, ils auront lieu à Paris. Cela a été confirmé par le CIO. Qu'en sera-t-il du football ? Christophe Diremzian, qui est l'envoyé spécial de RFI dans les Andes, nous donnera les détails de la discipline olympique. Mais pour parler de la Ligue des Champions, des matchs de la soirée, avec nous Marc Libra. Bonsoir Marc.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Fidèle au rendez-vous de la Ligue des Champions, et puis Patrick Juillard, lui aussi de Foot Africa 365, bonjour.
Bonjour Annie, enfin bonsoir Annie, et
oui,
bonsoir à tous.
Bonjour, ça dépend de l'heure, oui, du lieu où on nous écoute et on nous regarde. Tom Rossi représente la rédaction aujourd'hui, bonjour Tom.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Alors vous avez suivi aussi les matchs avec nous, et nous y allons, Radio Foot, c'est parti.
Il n'y a pas de hors-jeu, attention, Forsberg n'est pas en position de hors-jeu, Forsberg qui frappe.
Allez, la réponse monégasque avec ce centre vers Diakabi, la remise de Diakabi. Radamel Falcao qui égalise immédiatement.
C'est Tillmans qui marque. Ils n'ont pas eu le temps de douter, les monégasques, qui sont revenus très très vite dans cette partie.
Voilà le score de 1-1, donc les deux équipes n'ont pu se départager, mais la partie a été plus que disputée entre des monégasques finalement ambitieux, en tout cas ils l'ont montré sur le terrain, et puis les jeunes de ce surprenant Leipzig. Un seul point pour Monaco, ramené à la maison, mais le gardien de l'équipe, Diego Benaglio, puisque le gardien traditionnel Subasic n'était pas là, il est blessé. Le Suisse, donc, de Monaco, se satisfait du résultat.
On a eu beaucoup de changements cet été. Comme ça, cette saison, c'est la Champions League, c'est une nouvelle aventure. On cherche encore un petit peu comment ça marche tout de suite. Et comme ça, on a deux, trois joueurs qui sont venus juste, ça fait deux semaines, comme ça. Pour ça, je pense, c'était un match solide de notre côté ce soir et on est content avec les points.
Voilà, un content avec un point parce que effectivement l'été a été chaud du côté de l'effectif et de l'équipe de Jardine. D'abord sur l'ensemble du match, Marc, qu'est-ce que vous diriez ?
Je suis un petit peu déçu du résultat. Je m'attendais à voir une autre équipe monégasque. Certes, il y a des absents, mais ils ont quand même recruté aussi en début de saison. Ils ont recruté des joueurs. On sent qu'il y a des joueurs qui sont pas forcément au niveau actuellement sur un plan physique, ce qui est très surprenant. On est quand même mi-septembre. Je m'attendais à autre chose. Et puis tout le monde semble, côté monégasque, nous dire que c'est un bon point de prix. Monaco nous habituait à de très belles choses la saison passée, même en ce début de saison, jusqu'à ce petit souci à Nice. Je suis un petit peu surpris. Je m'attendais à voir une autre équipe monégasque beaucoup plus entreprenante et qui demande et qui... Là, on nous dit, ah ben, c'est un bon point de prix. Alors, si on dit que c'est un bon point, on parle quand même du... Enfin, c'était le champion de France la saison passée, quoi.
Patrick ?
Disons qu'on voit la difficulté pour Monaco lorsque l'équipe a moins le ballon, a moins la possession de balle qu'elle ne peut l'avoir en Ligue 1, avec un joueur comme Falcao qui est pratiquement inexistant dans le jeu, c'est-à-dire qui est un très bon finisseur mais qui a besoin d'avoir des ballons servis sur un plateau pour marquer. Là, Monaco joue presque à 10, donc ça déjà c'est plus difficile. On a vu ensuite sur les côtés que les latéraux qui étaient donc utilisés, Georges d'un côté, Almami Touré de l'autre, était pas forcément dans un très grand soir pour l'un et dans une très bonne condition pour l'autre, puisqu'Almami Touré revenait en compétition après plusieurs une longue absence. Et puis effectivement, sur le plan de l'intensité, c'était un petit peu inégal. Voilà, donc
vous êtes aussi déçu par la prestation de Monaco?
Pas déçu, mais attention, il faut pas sous-estimer non plus Leipzig, qui est une très bonne équipe.
C'est une super équipe.
Ouais. Donc voilà, non, déçu non, mais enfin il y a pas eu de quoi monter au rideau quoi.
Tom, il fallait s'attendre à autre chose de la part des Monégasques?
Je pense que Leonardo Jardim voulait un point, il l'a eu ce soir, très clairement. Il a bétonné son milieu de terrain, il a choisi Sidibé sur le côté droit avec Touré. Donc il a eu son point ce soir, il s'est montré assez frileux. Falcao, je l'ai trouvé très esselé devant. Et Diakabi, il faudra qu'on m'explique Diakabi sur le côté gauche aussi.
Alors,
c'est assez curieux.
Il y avait des absents, il y avait des blessés, il y avait aussi quand même... On le voit que cette équipe est en reconstruction quand même, Marc. On peut peut-être pas s'attendre à ce que le demi-finaliste l'année dernière est champion en titre. Il manque quand même des pièces essentielles à cette équipe. Bah, on pouvait pas s'attendre à ce que ce soir, eux aussi, fassent un carton à la mode Real.
Non, pas un carton, mais on se rend compte que le départ de Mendy n'a pas été compensé. Mbappé ne sera jamais compensé, ça on le sait. Et si vous n'avez pas Neymar aujourd'hui dans cette équipe, qui est un peu le moteur de cette équipe,
Neymar.
Excusez-moi, je suis bien fou avec
Neymar.
Je me suis
dit, ça aurait pu être Mbappé, mais ça arrive. Neymar,
hein, mais... ouais, c'est vrai. Neymar est absent côté gauche, et là on se rend compte que c'est compliqué. Et c'est vrai que Falcao, dans ce registre-là, quand il a deux joueurs sur les côtés qui vont l'aider, il est important. Mais là, il ne peut rien faire. C'est-à-dire que ce n'est même pas intéressant pour lui de le faire jouer. On peut faire jouer n'importe qui à ce poste-là. Tout seul, il peut pas. Système 4-2-3-1, c'est-à-dire que c'est clair, on va être Fabinho, on va resserrer. On voit un Camille Glick pas serein du tout. Jamerson.
Mais faut dire que le match de Nice aussi, il a peut-être troublé les esprits.
Il faut l'oublier. Il faut l'oublier. Non, oui, mais il faut passer à autre chose.
Mais si vous l'avez trouvé frileux, je me dis, c'est peut-être.
S'il a encore le match de Nice dans la tête, c'est compliqué.
Ce que je regrette au vu du match, c'est de pas avoir vu peut-être Keita Baldé d'entrée, puisque.
Bien sûr.
Quand il est rentré.
Là, vous rejoignez Tom qui parle de frilosité.
Il a vraiment fait de grosses différences.
Bien sûr. Vous pensez à la frilosité.
Alors, peut-être que Jardim le jugeait un peu court physiquement, puisqu'il a eu une préparation un peu perturbée, qu'il avait été mis à l'écart par la Lazio lorsqu'il voulait partir. Mais malgré tout, on a vu sur les quelques minutes qu'il a joué, qu'il faisait de grosses différences, qu'il avait une capacité de percussion assez hors norme. Et c'est un peu dommage contre une défense jeune, totalement inexpérimenté en Ligue des Champions, de ne pas avoir mis ce joueur, peut-être.
Au final, tu prends un point ce soir, mais tu auras un Monaco meilleur dans les prochaines semaines, parce que Lemar va revenir, on va avoir un Keita Baldé à 100% avec Jovetic. On se dit que c'est peut-être de bon augure pour la suite. Si Monaco prend un point ce soir, je pense que ça va aller beaucoup mieux dans les prochaines semaines.
Une chose sur le gardien, parce que effectivement, c'était pas Subasic. Il a été plutôt. Il a sauvé certaines situations.
C'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est-à-dire que globalement, il a fait un match de belle facture. Il a été assez sûr. Mais sur le but, il prend quand même un but entre lui et son poteau droit, son côté fermé. Donc c'est en général ce que les gardiens ne doivent jamais faire.
Non, c'est vrai qu'on peut lui reprocher le but. Après, il a deux duels qu'il remporte, qui sont très importants. Voilà, passer après Subasic, je pense qu'il a quand même, tenu la route ce soir, parce que ces duels, fallait les remporter, ça peut changer le cours du match.
Ouais,
aussi.
Surtout contre Augustin en fin de match. Ouais, Augustin. Là, c'était, il fallait
y
aller.
Souvent,
il anticipe une sortie très loin du but. Il y a un duel. Il a été pour moi très très bon.
Alors Jean-Kévin Augustin, ancien Parisien, et qui se retrouve du côté de Leipzig, un point pour Leipzig, un but et un seul marqué, mais à souligner, c'est historique du côté de cette équipe, puisque c'était son premier match en Ligue des Champions, donc premier point, premier but.
Voilà, donc bon, c'est un bon départ. On voit qu'ils font, ils ont perdu quelques joueurs, mais malgré ça, ils font un bon début de saison. Enfin, ils ont vendu Naby Keita qui ne jouait pas ce soir, mais ça tient la route, ça a l'air de tourner, cette équipe.
Eh bien, écoutons un international jeune, français de cette équipe qui porte donc les couleurs de Leipzig, Dayo Upamecano, qui s'exprimait à la sortie du match.
Pas de déception, c'était un match très important. Maintenant, il fallait qu'on se concentre, qu'on mette de l'ingrédient. Après, le coach nous a passé des consignes, on les a respectées. Après, il fallait qu'on ait beaucoup d'occasions. Après, il fallait qu'on les finisse, mais on n'a pas eu de...
Alors, il les a pas finis. Il a pas fini sa phrase. Ils ont pas fini les occasions non plus. En tout cas, est-ce que vous avez apprécié cette fougue dont on avait vanté les mérites en avant-match dans Radio Foot, Marc.
Non, mais cette équipe de Leipzig est actuellement quatrième du championnat d'Allemagne. Elle a fait une très belle saison. Ils sont plutôt pas mal. Offensivement, c'est vrai qu'ils sont capables de faire du mal. Ça va très vite. Maintenant, on va parler de Benaglio qui a fait 3 arrêts. Peut-être qu'il y a 3-1 à la fin du match aussi. S'il fait pas ces arrêts-là, s'il fait pas sa sortie à 30 mètres du but. Donc, il faut faire attention. Ce qui est inquiétant, c'est des défenseurs monégasques qui ils font des contrôles à 2 mètres. On les a vus pendant le match. On a vu le match ensemble. C'est pas du niveau de Monaco. Certains défenseurs, je vous dis, contrôle, ce qu'on appelle un contrôle américain dans le jargon footballistique. Jamerson qui est capable de mettre un coup de poing dans la tête du mec, je pense qu'il va se faire rappeler à l'ordre parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. C'est 65e, 70e. Il prend son attaquant. Certes, il est chargé. Il se retourne, il lui met concrètement une belle gifle dans la tête. Mais ils vont le reprendre. Il va prendre 4-5 matchs. C'est pas possible que ça passe, ce genre de choses. Donc, si ils sont fébriles, c'est pas le Monaco. Alors, si c'est Nice vraiment qui a mis cette équipe monégasque dans cet état-là, je sais pas.
Alors, attention sur Leipzig. Quand même, alors sur Leipzig, bon, déjà le petit,
moi, je crois.
Le petit Upamecano, donc qu'on a entendu, a été excellent, je trouve, en défense. Mm-hmm. Ce joueur-là n'a que 18 ans. Il a l'âge de Kylian Mbappé. Il vient d'Evreux. Il est d'origine bissau-guinéenne. D'où son nom qui a une consonance un peu lusophone. Hein,
oui, totalement.
Et donc c'est un joueur très prometteur qui avait d'ailleurs été repéré à l'époque où il jouait à Valenciennes en 2015 par Marcelo Bielsa, alors entraîneur de l'OM. Déjà.
Donc, c'est pas un ami de Marc Lebrun.
Voilà. Mais en tout cas, c'est un joueur très prometteur. Et là, il a vraiment tenu la baraque derrière. Et puis cette équipe, bon, a fait de belles choses, surtout quand elle avait le ballon. Quand elle pouvait lancer ses attaquants dans le dos du milieu monégasque. Après, à la perte de balles, c'était un petit peu plus brouillon parfois.
Oui. Celui qu'on a beaucoup vu, évidemment, dans cette attaque, Tom, c'est Timo Werner. C'est celui qu'on avait déjà vu remarquer beaucoup, en plus de la Bundesliga l'année dernière, mais à la Coupe des Confédérations. Et c'est l'international allemand qui confirme toujours plus à chaque match.
Il avait marqué 21 buts la saison dernière et déjà 6 buts pour 8 matchs. En sélection allemande, donc c'est impressionnant. Timo Werner a fait
même si
un
c'est
bon
pas
match.
Lui, hein, précisons-le, qui ne marque
pas. C'est Forsberg, le
voilà,
Suédois.
Exactement, qu'on avait déjà vu aussi lui.
Et
par
qui
ailleurs.
Lui était suivi à une époque par l'Olympique Lyonnais. Donc les clubs français ont l'œil sur ce Red Bull.
En tout cas, ils ont un attaquant qui vraiment fait briller tout l'avant de Leipzig.
Ouais, Jamerson et Glick ont passé un sale moment, je pense.
Ouais. Ah ouais, c'était compliqué
non,
pour
ce
eux.
Qui est bien, c'est que c'était un 4-4-2, donc avec deux attaquants, donc Werner, qui est très mobile, rapide, technique, et Poulsen, qui a plus un physique de déménageur,
de tour
maroco-danois, tour de contrôle, un petit peu, et deux meneurs de jeu, dont le Sabitzer, l'Autrichien, qui est un peu le Cristiano Ronaldo autrichien, on en parlait pendant le match, et qui a été pas mal dans l'orientation du jeu.
À cause de la coiffure ou parce qu'il marque
un peu les deux, qui a été pas mal dans l'orientation du jeu, même si pas décisif.
Alors voilà pour ce match, un point pour chacun dans ce groupe G où on a aussi le FC Porto et Beşiktaş. Ça a été un match, vous regardiez plutôt les matchs parallèles, on va dire, Tom. Et il y avait ce match qui se termine mal pour Porto.
Oui,
mis en échec à domicile.
Le Porto de Sergio Conceição, oui, c'est une défaite. Assez surprenante, surtout que c'est un groupe où il ne faut pas perdre
3
trop.
3-1, hein, ils ouais. ont perdu hein, face aux Turcs de Beşiktaş.
C'est un groupe où je pense que beaucoup Monaco va perdre des points, je pense. Beşiktaş, Porto, il va falloir jouer là-bas. Et surtout qu'un Portugais qui perd et qui va devoir rejouer contre Jardim, je pense que ça va être compliqué pour Monaco. Oui,
ouais, en tout cas, Porto, c'est
le prochain match en plus.
C'était voilà. Au stade des Dragons, effectivement.
Porto a d'emblée des points à rattraper, va à Monaco, une équipe que son entraîneur Sergio Conceição connaît bien puisqu'il vient de Ligue 1 et puis puisque elle est entraînée par un de ses compatriotes. Donc ça va pas être simple pour Monaco qui va devoir à mon avis faire un match de Ligue des vrais matchs de Ligue des Champions pour gagner.
Ça devient déjà primordial de gagner lors de la deuxième journée.
Ouais,
ils se sont mis déjà en danger les deux équipes. Alors ça va être très très chaud parce que ce match va compter vraiment.
Oui, mais bon, Porto d'aujourd'hui n'est plus non plus le Porto d'autrefois, même si dans leur championnat ça va plus plutôt bien, Marc.
Non, mais c'est vrai que le Porto d'autrefois, c'est une équipe qui est quand même difficile à jouer. Je pense qu'à Monaco, il y aura la communauté portugaise qui va répondre présent, donc il y aura beaucoup de monde dans le stade. Il faut pouvoir, je crois que la génération, cette génération monégasque a 24 ans de moyenne d'âge, elle est assez jeune aussi, certains des collègues des champions. Donc, il y a beaucoup plus d'expérience côté Porto aussi. Donc, attention à ça. C'est vraiment, ce match, ce deuxième match paraît vraiment très important pour le monégasque.
Patrick, surprenant Beşiktaş ou pas?
Pas
Beşiktaş
tant.
Avec Pepe hein, dans ses rangs, l'ancien Merengue.
Surprenant pas vraiment, puisqu'on avait déjà vu cette équipe du Beşiktaş très bonne l'an dernier en Europa League. Elle avait été jusqu'en quart de finale ou sortie de peu, enfin au terme de deux matchs très disputés par l'Olympique Lyonnais. Et elle avait déjà pas été ridicule en Ligue des Champions. Alors ce qui est assez ironique de constater, c'est que il y a une grosse filière entre Porto et Beşiktaş, puisque l'an passé il y avait notamment Talisca et Vincent Aboubakar qui étaient prêtés au Beşiktaş par Porto. Il y a toujours des liens entre les deux équipes. On a notamment aujourd'hui Quaresma qui joue à Beşiktaş, alors que c'est un ancien du précédent club. Donc c'est intéressant de le voir. Ça va être aussi, il y a un petit côté fratricide dans ces matchs.
Le carton de la soirée, le match où il y a eu le plus de buts marqués par une seule équipe, c'est Manchester City à Rotterdam, au Feyenoord. C'est ça, Tom ?
Oui, exactement. Ouais.
Avec un Manchester City de feu.
Exactement, avec un bon De Bruyne aussi, qu'on a vu ce week-end notamment, qui a été excellent. Donc je pense qu'il va falloir regarder City, on peut dire l'ennemi du Paris Saint-Germain, dirait-on.
Oui, entre dirigeants.
Entre dirigeants, exactement, voilà.
Un peu comme à l'image de Chelsea hier soir, c'est des machines. Ils peuvent faire tourner, on fait pas de cadeaux. On marque, comme a su le faire. D'ailleurs, il faut mettre le PSG dans cette histoire-là maintenant aussi, comme les grands.
City, buteur, on a Aguero, on a Jesus, et puis on a Stones qui, lui, a marqué par deux fois, un doublé donc pour lui. Feyenoord, finalement, c'était pas l'enfer promis par Naïm Moniol tout à l'heure. Patrick, Julien, ça vous a amusé.
Je voulais pas balancer, mais non, mais disons que Feyenoord, c'est une équipe jeune, une équipe ça fait bien de longues années qui n'ont plus été à ce niveau-là en Ligue des Champions. Donc moi, je compte City qui est assez remonté avec un Pep Guardiola qui est vraiment désireux de marquer le club de son empreinte après une première saison mitigée. Je pense que l'enjeu était d'emblée assez déséquilibré. Le match de ce soir l'a confirmé.
Et juste une petite parenthèse sur les deux attaquants de City. La saison passée, Aguero, Jesus, on se disait « Ah, ils peuvent pas jouer ensemble ». Ah ben, s'ils peuvent pas jouer ensemble, je crois que depuis le début de la saison, on voit bien que les deux marchent très très bien. Et en plus, un De Bruyne à la baguette qui est capable de les régaler, de leur mettre des ballons côté droit, côté gauche. Si ça reste comme ça... Ça va faire du mal, en tout cas.
Redoutable,
ouais. Ah oui, vraiment.
Bah, l'effectif de Pep Guardiola, de toute façon, cette année, il l'a peaufiné, mais ça se veut, vous le disiez, une machine de guerre. Et ça se veut aller au-delà de l'année dernière, quart de finale éliminé par Monaco.
On dit souvent que c'est l'accumulation de joueurs, on empile des joueurs. Mais là, il est en train de se créer quelque chose. Quand ils ont acheté, quand juste c'est arrivé la saison passée, il a mis un petit peu Aguero sur le banc, il a commencé à marquer des buts, après il s'est blessé, Aguero revenu. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, les deux, ça fonctionne très bien. Donc, attention,
ils ont été tous les deux blessés, puisque Jesus aussi a été blessé un bon moment. Vous y croyez, vous, à ce Manchester City, sur la route européenne, Patrick?
Oui, j'y crois, d'abord pour le savoir-faire de l'entraîneur, et puis surtout, je trouve qu'il a bien amélioré son effectif cet été, en recrutant notamment deux joueurs de côté qui collent un petit peu à ce qu'il aime voir, c'est-à-dire Benjamin Mendy et Kyle Walker. Et ça améliore considérablement
aussi
ce qu'il a en magasin. Oui, voilà,
c'est ça.
C'est 130 millions pour les deux environ. Donc ça, ils peuvent être bons, mais je pense qu'ils vont l'être et ça va faire franchir un pas à cette équipe. Bon, le reste, il y a un nouveau gardien, bon, qui a été blessé lors du dernier match de Première Ligue, d'ailleurs, on l'a vu.
Sadio Mané.
Voilà, c'est Ederson, le gardien, et il s'est pris le pied de Sadio Mané sur un duel.
Par Sadio Mané.
Voilà, donc ça lui a fait un peu de mal. On a vu des images assez impressionnantes de ses points de suture au visage, mais globalement, je pense qu'il a bien fait un bon mercato, donc oui, moi j'y crois.
Vous y croyez. C'est la fin de cette première partie de Radio Foot International. Restez avec nous, on se retrouve juste après le flash d'information. On continuera à examiner ces matchs et notamment, on évoquera plus qu'on ne s'attardera sur le Real facile vainqueur de l'Apoel Nicosie. À tout de suite.
Radio Foot International Annie Gasnier.
Deuxième partie de Radio Foot International, deuxième partie après la deuxième soirée de Ligue des Champions. Nous sommes avec Marc Libra, Patrick Juillat et Tom Rossi pour examiner tous ensemble les résultats de la soirée. Comme on évoquait ce match de City, voilà, Feyenoord City, restons dans le même groupe. Et dans le même groupe, on a Shakhtar Donetsk Naples avec une étonnante défaite des Napolitains.
Oui, ils ont perdu 2-1 et ils perdaient même 2-0. C'est Milik qui a réduit le score en seconde période. Alors c'est étonnant.
Sur penalty, hein.
Oui, c'est ça, exactement. Mmh. C'est étonnant pour Naples parce qu'on se disait qu'ils allaient peut-être jouer la première place avec City. Et là, ils viennent de perdre des plumes et au final, ça va se jouer avec le Shakhtar Donetsk.
La déception peut-être des Italiens, Patrick, c'était l'énorme nervosité qu'on a vue. À un moment, il y a eu des gestes. Je crois que l'entraîneur aussi a été envoyé, il m'a semblé, de Naples, non ? A été un peu renvoyé du banc. Enfin bon, en tout cas, ouais, rappelé à l'ordre.
C'était assez chaud.
C'était chaud, hein.
Ouais, disons que c'est le Napoli. Bon, ça a fait bonne impression contre le GC Nice en match de barrage, hein, d'ailleurs.
Ils les ont éliminés.
On l'a appris à nos dépens. Mais là, c'est toujours des déplacements un peu difficiles en début de saison en Ukraine. Contre le Shakhtar, comme ça, on n'a pas forcément beaucoup de repères sur cette équipe-là et. Avec beaucoup de joueurs brésiliens, souvent de bonne qualité. Certains ont fait des belles carrières.
Beaucoup d'équipes de l'Est.
Non, mais un joueur comme Willian de Chelsea, il est issu de ce club.
Hein, Douglas Costa aussi. Hein.
Douglas Costa aussi, ouais. Il y en a beaucoup. Bon, Brandao aussi, c'est pas forcément le meilleur exemple.
Pourquoi
mais bon.
Ça va pas ou quoi?
Donc, si vous voulez, ça peut être un peu casse-gueule et ça l'a été pour Naples.
C'est toujours important. Hier, je vous disais, le PSG a été très sérieux du début jusqu'à la fin. Si on ne met pas les bons ingrédients face à des équipes comme ça, le déplacement, on peut passer à travers.
On n'a pas beaucoup de marge.
Voilà. Et on n'a pas de fenêtre de tir, on va dire. Et puis après, ils se font piéger, ils sentent le piège se refermer et là, on commence à s'énerver, on se bouscule, ça part dans tous les sens et en fait, ils perdent leur football. À l'arrivée, Shakhtar a fait la différence. Bravo eux, mais c'était pas évident. Mais après,
surtout difficile. qu'on a un Shakhtar moins fringant, peut-être. Alors moins fort, je ne sais pas, mais moins fringant que les autres années. Ils ont notamment perdu leur éternel entraîneur Patrick
Mircea Lucescu, donc qui est parti prendre les rênes de la sélection turque. Effectivement, c'était lui qui incarnait vraiment le projet, l'idée de jeu, vraiment la cheville ouvrière du club.
Si on ajoute à ça les contextes politiques assez durs
qui dissuadent beaucoup de joueurs de signer là-bas, les conditions d'entraînement, effectivement. Bref, tout ça fait qu'ils ont d'autant plus de mérite à être encore compétitifs comme ça. Voilà.
Ouais. Passons alors au Real Madrid. Le Real Madrid, avait un adversaire qui ne paraissait comme ça sur le papier pas être si effrayant, Apoel Nicosie, et un Real Madrid qui finalement s'en est sorti grâce au premier but marqué par sa vedette.
Bale dans ballon, deuxième poteau, Ronaldo et le but pour le Real Madrid. 12e minute de jeu, CR7. Déjà, Real 1, Apoel 0.
Et il n'en est pas resté là, Cristiano Ronaldo, il marque un deuxième but sur pénalty. Et ensuite, c'est Sergio Ramos, un défenseur qui marque encore, Marc Libra. Sergio Ramos, c'est...
Il est partout.
Il est partout et il marque des buts. Comme Cristiano, il se met dans sa roue.
Ouais, mais il est plutôt très adroit. On dit souvent, le Real Madrid, c'est Cristiano. Et puis, s'il y en a un qui doit décanter la situation, c'est toujours Ramos. On va s'en rappeler des grands matchs, il répond présent. Et le match parfait, c'est que ça démarre, au bout de 12 minutes, il marque, on se dit, finalement, on va dérouler, on s'ennuie un peu, puis à l'arrivée, ils en mettent 3. Ouais. Mais s'il y en a un qui lâche pas, c'est toujours Ronaldo, parce qu'il a fait tête plongeante, elle est passée de peu à côté. Sous la barre, il croit qu'elle est rentrée, elle est pas rentrée. Enfin, vous avez un moteur qui s'appelle Ronaldo qui est devant. Ce match... Vous allez vous endormir, vous pouvez pas parce que lui vous tire vers l'eau, quoi. Et il lâche rien. Il voulait marquer le triplé, il tire le penalty, il va prendre le ballon, il part en courant parce que c'est un truc de fou.
Mais il a quand même marqué un doublé et l'entraîneur de cette équipe double tenante du titre, Zizou, un entraîneur finalement heureux.
La première mi-temps n'a pas été très bonne. Je crois que surtout que notre début de match n'a pas été très bon. Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a joué un peu plus haut, on a pressé un peu plus, on a mis un peu plus d'intensité dans notre jeu et c'était bien meilleur. La deuxième mi-temps était bien meilleure. Mais bon, pour notre premier match de Champions League, on va faire la fine bouche, on est, on est, on est tous contents de cette victoire. Et puis en plus, on n'a pas pris de but, donc on peut être satisfait.
Voilà, un entraîneur satisfait, Zinedine Zidane. Il y avait une grande banderole dans les tribunes de Santiago Bernabéu.
Oui, c'est en route vers la 13e.
Décima tercera, voilà. N'est-ce pas, hein, la 13e, insatisfait et toujours insatiable, ses supporters.
Ouais, disons que ce match-là, on a eu l'impression que c'était un train qui arrivait gentiment à l'heure. Quoi.
Voilà.
Bon, rien à dire. Ni bon ni mauvais, efficace quand il fallait mais pas flamboyant. Match de début de saison, ils ont gardé des forces pour la Liga où ils ont connu deux matchs un peu difficiles ces dernières semaines et où ils commencent à être un petit peu lâchés par le Barça. Il faudrait pas que l'écart se creuse.
Voilà, finalement là c'était un entraînement grandeur nature. Tom.
Et pour en revenir à Cristiano Ronaldo, c'était son 100e, 107e et 108e but en Ligue des Champions.
Il continue. Bah, il va encore nous en marquer beaucoup cette saison. Dans le même groupe, c'est le groupe H. Alors nous avons un Tottenham Borussia Dortmund. Et là, c'était The Spectacle, Tom.
Au bout de 15 minutes, 3 buts. Il y avait déjà 2-1 pour Tottenham grâce à un grand Harry Kane. Alors déjà une passe décisive pour commencer sur Son, sur le Coréen. Et après, égalisation de Dortmund avec un but magnifique de la nouvelle recrue. Venu du Dynamo de Kiev, c'était Yarmolenko, un ballon en pleine lucarne aux 20 mètres, c'était magnifique. Et ensuite, on arrive à une deuxième période totalement différente. Donc Dortmund avait le ballon en première période, pressait très haut, Tottenham jouait très bas. Et après, en deuxième période, Dortmund s'est totalement éteint, à l'image de son américain Pulisic qu'on n'a plus vu. Aubameyang absent totalement des débats, même s'il y a eu un but d'Aubameyang qui a été refusé injustement. Et juste derrière ce but refusé, Harry Kane pour son doublé. Il avait déjà mis un doublé à Everton le week-end dernier. Donc finalement, un Dortmund décevant en seconde période et un Tottenham qui file finalement avec le Real pour se qualifier.
Mmh. C'est la première journée. Là.
Voilà, attention. Parce que...
mais disons que c'est Tottenham a un petit peu vaincu un signe indien en Ligue des Champions puisqu'ils avaient jusqu'alors un peu de mal à enchaîner des bons résultats, notamment à domicile. Et là, bon, c'est intéressant, je trouve, d'avoir battu ce Dortmund-là, même si... C'est un Dortmund de début de saison. Hein. C'est une équipe qui est plutôt programmée
avec
pour être
énormément
au top plus tard.
Et
avec
beaucoup d'absents.
Donc voilà, il faut pas surestimer non plus le résultat.
Bon, en tout cas, Tottenham a bien fait le travail parce que c'est vrai que le BVB, on s'en méfie toujours un peu, surtout au vu de ce qu'ils font et en Bundesliga et ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions. Passons, au match où sans doute, les Reds ont été déçus. Liverpool, FC Séville avec l'ouverture du score, par Ben Yedder, c'est-à-dire le Sévillan. Ils ont d'abord mené sur la pelouse des Reds pour que finalement, Liverpool marque deux buts. Égalisation ensuite de ce Liverpool. À la sortie, nous avions Sadio Mané qui restait un peu sur sa faim.
Il ne faut pas aussi oublier qu'on a en face de nous une belle équipe, Séville, qui était bon. Je dirais ils ont à un moment donné dominé le match, mais bon, puisque ils n'ont pas pu se créer beaucoup de cases. Les occasions qu'ils ont eues, ils les mettent au fond. Ça fait aussi la différence. Donc voilà.
Liverpool, Sadio Mané reste un peu sur sa fin. C'est vrai que on les a vus pousser jusque dans les 4 minutes d'arrêt de jeu. Ils voulaient essayer de l'arracher cette victoire,
ouais,
Patrick.
Mais franchement, Liverpool, c'est une équipe frustrante. On a envie de dire que le pire ennemi de Liverpool, c'est Liverpool lui-même. C'est-à-dire que
on sait jamais à quoi s'attendre.
Il y a un jeu offensif vraiment généreux avec beaucoup à la fois d'agressivité, de qualité technique, mais des erreurs défensives, des approximations qu'on peut pas tolérer à ce niveau-là et qui se payent très cher. Donc je suis un peu mitigé.
Ouais, ça part d'un bon sentiment, beaucoup je débauche d'énergie, mais on monte, on se replace pas et puis on se fait piéger, on se piège rapidement. Après, ce week-end, ils ont pris une bonne correction. On les voyait bien cette saison et finalement, ils se sont fait remettre en place. Donc
Ils font un peu des montagnes russes l'année dernière, c'était déjà
ouais,
ça.
Mais alors l'année dernière, c'était par rapport à Mané. Mané est là, c'était le baromètre. Mmh. Rappelez-vous quand il est absent, quand il est blessé, on a une autre équipe. Et si lui est pas très bien ou si s'il ressasse encore son mauvais geste sur le gardien de City, enfin tout ce genre de choses, Voilà, mais pour moi, c'est vraiment le baromètre.
On a vu un bon Mohamed Salah, par contre, surtout en première mi-temps,
qui inscrit le deuxième but à la 37e minute.
Un peu heureux, mais il fallait aller le chercher, ce but. Une frappe contrée, mais il fallait aller chercher le ballon. Il est allé vraiment le gratter dans les pieds de son adversaire.
Super but, ouais.
Mais après, ça tient pas forcément la distance sur 90 minutes, tout ça. Pas juste Salah, mais en général, quoi.
Le premier but de Liverpool avait été inscrit par le Brésilien Firmino.
Qui a d'ailleurs raté un penalty, donc peut-être que Liverpool aura des regrets.
Oui, certainement. C'est vrai. Un des derniers matchs de cette soirée, si je me trompe pas, c'est Maribor Spartak Moscou.
Je crois que j'ai fait l'impasse.
Je suis sûr que vous avez regardé ce match avec une précision.
Écoutez, il y a eu des buts et en plus Maribor a réussi à égaliser. C'est bien ça, Tom. Je me trompe pas. 1-1 score final.
Oui, Maribor a égalisé à la 85e finalement à domicile. Mm-hmm.
Une belle fête pour ce public. Bon, la Slovénie qui est pas si souvent présente que ça en Ligue des Champions. Ces dernières années, c'était plutôt la Bulgarie avec Ludogorets ou le Kazakhstan avec le FC Astana qui représentait un peu les nations exotiques. Et bon, là, la Slovénie qui, premier match, premier point à domicile. Bon, ça a le mérite de donner quelque chose à ce club.
Dans ce groupe, on a l'impression que donc il y a Liverpool, Séville, Maribor et le Spartak Moscou qui va y avoir un match pour la première place et certainement un match pour la troisième place qualificative en Ligue Europa.
Ouais, il y a certaines poules qui sont déjà prédestinées première, deuxième et là c'est assez ouvert donc on va voir. Il peut y avoir des surprises aussi. Attention, on a vu ce soir Naples qui se fait piéger. On va voir Monaco ce qui va se passer aussi. Attention, ça va être très très dur tout ça.
Quelques questions de nos auditeurs via notre page Facebook. Il y en a beaucoup, donc on va se limiter. Mais peut-être une, Patrick, Sadio Mané a-t-il réussi son baptême du feu en Ligue des Champions?
Je dirais que c'est un peu à l'image de Liverpool. Il y a eu du bon et beaucoup de moins bon également. Donc je pense qu'il peut encore faire mieux en Ligue des Champions, même si, évidemment, sur des gestes et tout ça, on a vu des belles choses. Sur ce qu'on a vu, puisqu'on a un petit peu jonglé entre plusieurs matchs sur cette soirée.
Alors c'était une question de Abdoulaye Sow et on en a une autre de Jim Nad, c'est jusqu'où pourrait aller Monaco cette année en Ligue des Champions selon vous, Marc?
Ça va être
l'année dernière, on rappelle, demi-finaliste. L'année d'avant, quart de finale.
Quart de finaliste. Mm-hmm. Et l'année dernière, on les voyait pas forcément aussi bien. L'année d'avant non plus. Mais là, c'est vrai qu'au vu du début de saison, j'ai bien peur que Mbappé, c'est difficile de le compenser, et Mendy aussi. Donc, il va pas falloir que Lemar soit absent trop souvent et certains joueurs comme Glick, ces cadres-là, retrouvent leur niveau parce que c'est vrai que ce soir, pour moi, ils ont pas forcément été à la hauteur. Il n'y a pas de question sur l'OM? Non, mais je ne sais pas.
Mais il joue la Ligue des Champions, l'OM, mais
j'ai
Marc.
Attends, mais j'ai tenté, attends. Parce que demain soir.
Il y a une autre question de David Essimi qui, je complète, c'est l'effectif de la AS Monaco, peut-il passer le premier tour de la Ligue des Champions?
Oui.
On peut,
oui.
Voilà, c'est...
Oui, ils peuvent, puisque dans cette poule, c'est très équilibré, mais il faudra pas traîner en route, c'est-à-dire...
Tu perds Porto, on n'est pas bien.
Voilà, c'est-à-dire le deuxième match contre un Porto qui a perdu 3 points chez lui, en plus en prenant, avec un moins 2 au goal average, ça peut être compliqué déjà, et donc Monaco a intérêt à hausser un peu son niveau au deuxième match, je pense.
Cette question pour vous, Tom, de Nguer Badou United. Comment trouvez-vous l'entrée canon des clubs anglais dans la Ligue des Champions?
J'ai été vraiment impressionné par Tottenham quand même en deuxième période. Donc dans un groupe qui est quand même très compliqué, ils ont réussi à se défaire d'une équipe comme Dortmund grâce à un grand Harry Kane. Donc je pense qu'aujourd'hui, Manchester City, Tottenham, peuvent espérer quelque chose, même si Manchester City me semble bien au-dessus du lot.
L'auditeur aussi veut nous dire que ce soit Chelsea, Man United, ils ont marqué beaucoup, beaucoup de buts, tous ces clubs-là, avec City. Vous avez vu? Les City, United, Chelsea et Tottenham. Bon,
mais ils avaient des adversaires à la hauteur de carton.
On est d'accord, mais il faut les marquer, les buts, Annie. Et ça, c'est pas évident.
Oui, le Real, par exemple, n'a pas mis 6 buts.
Exactement.
Ce soir.
Non, mais Chelsea aussi, hier, a beaucoup marqué. Alors, pour terminer, parce que les questions, évidemment, tournent autour de la Ligue des Champions en général, mais c'est pensez-vous que le Paris Saint-Germain puisse faire un gros coup cette année, et comment peut-on le donner favori effectivement en sachant qu'il n'a jamais franchi les quarts de finale, hein, si je me trompe pas, c'est bien,
c'est ça,
ça, les quarts, mais surtout peut-être vu l'adversaire contre lequel ils ont mis 5 buts hier.
Ah oui, moi je trouve effectivement, je vais dans le sens de cet auditeur, il y a une enflammade, même plus qu'un emballement, il y a une enflammade
peut-être
médiatique
plus en France.
Absolument délirante. Alors certes,
depuis que
le PSG a gagné 5-0, certes, il y a eu de belles actions et un jeu parfois fluide et agréable, mais ça n'était que un petit Celtic Glasgow en face. Il n'y a pas de quoi en faire des caisses comme ça.
Mais pourquoi irait-il au-delà des quarts de finale? Vous avez fait aussi la réponse d'une certaine façon. Non, mais les raisons objectives, c'est ils ont Neymar, Mbappé et Cavani.
Oui, mais la vérité du mois de septembre n'est pas forcément celle du mois de février ou de mars.
Non, mais c'est pour ça que cette année, les gens les voient beaux, peut-être.
Et puis imaginons, une blessure peut survenir. Enfin, on ne sait pas dans quel état ils seront en mars. Voilà.
Allez, on laisse l'Europe. Je vous emmène en Amérique latine, je connais ça.
Ladies and gentlemen,
mesdames et messieurs, j'ai le grand honneur d'annoncer que le comité olympique international a simultanément élu la ville d'accueil des Jeux des 33e Olympiades et la ville qui accueillera les Olympiades 34 en 2028. Paris en 1924, Los Angeles en 2028.
La confirmation est donc venue du Pérou, de Lima, où sont réunis les membres du CIO. Paris recevra bien les JO, ceux qui couronneront finalement un siècle après les avoir accueillis la dernière fois en 1924 à Paris. On le sait, hein, depuis quelque temps, il y avait eu cet arrangement
depuis
entre
Los Angeles,
et Los Angeles. Et donc, c'est Paris 2024 désormais. Et des JO à Paris et autour de la ville. Hein, on vous a beaucoup parlé de ce projet ces derniers temps sur l'antenne et aujourd'hui, bien sûr. Paris désormais cité olympique. Mais le foot, dans tout ça, me direz-vous? Eh bien oui, parce que le football est une discipline olympique et c'est une question qu'on va poser à Christophe Diremison, qui est l'envoyé spécial de RFI à Lima, n'est-ce pas?
Quelle chance!
Christophe, vous avez appris à jouer de la flûte pendant votre voyage?
J'ai malheureusement pas eu le temps, Annie. Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Christophe. Alors, cette journée historique pour la ville de Paris s'est bien déroulée, Christophe, au cœur des Andes?
Oui, absolument. Ça a même été plus rapide que prévu, figurez-vous, parce que l'ordonnancement des différentes opérations faisait que normalement, on aurait dû avoir le vote aux alentours de 20h heure française. Tout allait très vite, parce que dans tout ce qui a été explication auparavant, notamment sur ce fameux accord tripartite qui devait donc sceller la répartition 2024-2028, personne n'a posé de question parmi les membres du CIO. Lorsque il y a eu une courte explication du rapport de la commission d'évaluation pour les Jeux 2028, parce qu'il fallait quand même, pour la forme, une explication et un rapport des Jeux 2028 pour Los Angeles, personne n'a posé de question. Donc tout est allé très vite par rapport au calendrier prévu, ce qui fait que, après les présentations qui, elles, étaient encore nécessaires au moins pour l'apparat, le vote est intervenu très rapidement, vote à main levée, aucune objection, évidemment, donc unanimité pour accorder simultanément 2024 à Paris et 2028 à Los Angeles, et ça s'est passé aux alentours de 19h50 heure française, 17h50 temps universel, avec, vous l'imaginez, une grosse émotion, surtout du côté Paris, hein, Tony Estanguet et Anne Hidalgo qui en avait presque les larmes aux yeux lorsqu'elle a montré le panneau Paris 2024 que lui a tendu Thomas Barr ainsi qu'à Eric Garcetti, le maire de Los Angeles pour 2028. Grosse émotion, plus de retenue du côté de Los Angeles, mais ils ont un petit peu plus le temps, eux, de savourer cet instant, et puis surtout, ils ont obtenu effectivement ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire obtenir un délai supplémentaire de 4 ans pour des raisons financières, puis pour peaufiner leur projet sur le transport et des choses comme ça.
Christophe, alors une question que je vais vous poser, c'est évidemment autour de la discipline qu'est le football. Des matchs, il y en aura dans la capitale, du côté du Parc des Princes, mais pas seulement, il y en aura sur tout le territoire français.
9 exactement, vous avez cité le Parc des Princes, alors je vais pas tous les citer, il y a le Matmut Atlantique à Bordeaux, le groupe Amas Stadium à Lyon, le stade Vélodrome, l'Alliance Riviera, il y aura deux fois Guichard, voilà des stades comme celui-ci. Alors ils sont parfaitement dans les clous, je dirais, du dossier de Paris 2024, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stade à construire, il n'y en a pas forcément à rénover, sauf peut-être quand même le stade de la Beaujoire, puisqu'il ne faisait pas partie des stades de l'Euro 2016, et celui-ci aura peut-être besoin, le cas échéant, d'un petit rafraîchissement, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à construire à ce tournoi olympique, pour laquelle je rappelle que l'équipe de France n'a pas figuré depuis 1996 quand même, championne olympique en 84, mais totalement absente depuis 1996, je crois qu'elle avait terminé de mémoire cinquième dans ce tournoi à Atlanta. Voilà, c'est effectivement. Alors, on sait que le football n'est pas la priorité de la FIFA. D'ailleurs, je crois que le calendrier ne comprend pas les Jeux Olympiques. Et du coup, ça fera l'occasion de mettre un petit peu plus en avant une équipe de France olympique, puisqu'évidemment elle est qualifiée d'office, et de retrouver peut-être un peu de gloire telle qu'elle en a connue en 1984.
Merci beaucoup, Christophe, pour vos éclairages. Et on vous laisse parce que vous êtes en 4G, comme on dit, et parfois il y a des petites coupures sur la ligne. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis on vous laisse avec votre jolie flûte. Histoire de planer un peu dans les Andes au bord du Pacifique.
Pour rester un peu dans l'ambiance.
Merci beaucoup, Christophe. Clin d'œil de David Finzel, bien sûr, à votre égard, vous l'avez deviné. Ces sites, effectivement, il y en a 9. Alors, on le disait, Parc des Princes, Nantes, La Beaujoire, Bordeaux, le disait aussi Christophe. Et puis, il y a Lille, Lyon, Marseille, Nice, Saint-Etienne, Toulouse, alors, donc des villes...
Voilà, la plupart, ce sont des villes qui ont déjà accueilli l'Euro, qui ont des stades qui ont été soit rénovés, soit totalement reconstruits. Alors, il y a peut-être un petit doute pour Nantes, puisque, aux dernières nouvelles, à l'intérieur du club à Nantes, on souhaiterait construire un nouveau stade... sur le même terrain, enfin à côté du stade de la Beaujoire, un stade plus grand et plus fonctionnel, peut-être aussi dans lequel on pourrait mieux canaliser les supporters, hein, enfin, mais ça il faut pas le dire, et donc je ne suis pas sûr que ce sera la Beaujoire le stade choisi.
Voilà. En tout cas, rappelons qu'il y a beaucoup de stades, mais c'est aussi parce qu'il y a la compétition pour les hommes et pour les femmes. Alors la France l'a gagnée une fois, en 1984, c'était la belle génération Platini, où les Français venaient d'être sacrés champions d'Europe. Et puis, il y a une équipe africaine qui, un jour, a remporté cette compétition. Mais je parle d'une équipe africaine en l'an 2000, cher Patrick, et c'était à Sydney.
C'est des moments d'une... intensité émotionnelle qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas résumer. Ça reste là, vraiment, ça reste là. Parce que être champion olympique, par rapport à tous les prétendants, par rapport à tous les candidats, je vous assure que c'est comme si on vous demandait, n'est-ce pas, d'arriver là où Dieu se trouve. Ça, c'est des moments vraiment irremplaçables dans la vie de quelqu'un. Sur le plan sportif, c'est cette émotion, vous n'avez pas l'impression que c'est vous, vous n'avez pas l'impression que c'est le Cameroun qui se retrouve aussi grand dans le monde entier, c'est le Cameroun qui clôture, c'est l'hymne national du Cameroun qui clôture les Jeux.
Est-ce que vous avez deviné le nom de ce sélectionneur heureux,
oui,
Patrick?
C'est Jean-Paul Akono.
Effectivement.
Qui était d'ailleurs revenu il y a quelques années à la tête des Lions.
Des Lions.
Et qui avait eu un infarctus. Bref, même...
ça avait été un beau parcours de ces Camerounais qui gagnaient effectivement 4 ans après le Nigeria.
Voilà,
le Nigeria,
c'était une
qui
grande période
remporté.
Pour le football de sélection africain, puisque bon, à la même époque, dans les années 90, donc le Cameroun s'était déjà illustré au mondial italien, le Nigeria avait fait de même en 94 et 98 en franchissant à chaque fois le premier tour. Et là, ça se concluait par les JO d'Atlanta du Nigeria et le 2000 pour le Cameroun. Donc ça reste des très beaux souvenirs et c'est un des premiers triomphes mondiaux du football africain, finalement, les Jeux Olympiques.
Et oui, et finalement, ces médailles d'or, parfois, elles font rêver et parfois, eh bien, elles se refusent à vous. Et ça a été très longtemps le cas d'une équipe quintuple championne du monde.
For Neymar to confirm Brazil's first Olympic gold medal. Neymar of Barcelona of Brazil gives Brazil their first ever Olympic gold medal.
Neymar en capitaine de la sélection olympique. Marc, c'était très récemment, c'était au JO de Rio. Et c'était pas simple en plus, c'était remporter à domicile un titre qui se refusait. Et là, contrairement à la Coupe du Monde, fallait pas se louper.
Oui, mais surtout, il y avait le traumatisme de la Coupe du Monde qui était très important.
Et c'était contre des Allemands en plus.
L'image est assez saisissante puisqu'il marque son pénalty, il s'effondre. Donc,
il y avait eu 1-1 à la fin du temps réglementaire et donc séance de pénalty terrible.
Et ça avait été mais énorme ici. Mais encore une fois, il avait tenu la dragée haute, rappelez-vous, pendant la Coupe du Monde et pendant les JO. Ben, il a tenu la dragée haute. Il a permis au Brésil, puisqu'en demi-finale, il marque un superbe coup franc, il me semble. Il a été énormissime du début jusqu'à la fin.
Et c'est vrai que ces JO ont servi, y compris à l'équipe A,
de se remettre un peu
pour rebondir. Neymar a gagné beaucoup de confiance, est devenu un vrai patron d'équipe et ça a aidé l'équipe A ensuite.
Énormément, et ça a aidé son image. Et souvenons-nous alors, France 1984 à Los Angeles.
Bon centre.
En plus, hasard des choses, la France avait battu le Brésil. Le Brésil, il y avait déjà Dunga dans l'équipe.
Exactement, ouais, c'est vrai.
Qui avait marqué, Marc?
Daniel Gzureb. Et le deuxième, c'était, si mes souvenirs sont bons...
Bijota ou Brisson?
Brisson. Mmh. Brisson qui marque le premier et Gzureb le deuxième.
Mmh. Ouais. Et le sélectionneur était celui qui parlait?
Henri Michel.
Voilà. Et c'était effectivement une équipe de France déjà.
C'est l'équipe olympique, c'est-à-dire que c'est pas l'équipe A.
Ce que disait Henri Michel, c'était la première fois que des professionnels
pouvaient jouer. Voilà. Et depuis, ça a été changé puisque maintenant on autorise, c'est réservé aux joueurs de moins de 23 ans. On autorise trois joueurs plus âgés
à se glisser dans l'effectif.
C'est comme ça que Messi a été champion olympique.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir tenu éveillé si tard avec nous. Merci, Tom Rossi, d'avoir apporté toutes vos lumières sur les autres matchs. Merci aussi à David Finzel, qui fidèlement nous a aidés à préparer l'émission, et Guillaume Ploquin à la réalisation. À demain.